Avec leurs longues avenues vides et leurs places en étoiles désolées, les forêts m'ont toujours inspiré un certain rejet. Les longues lignes droites en faux plat sont les seuls souvenirs cyclistes que j'ai ramenés des forêts d'Ermenonville, Rambouillet et Orléans. Les forêts me désespèrent et sur les vieilles diapositives familiales, j'ai l'air déjà mélancolique dans ma poussette en forêt de Bretonne. Un heureux déménagement devait heureusement me conduire aux portes du Gâtinais, à une vingtaine de kilomètres de la forêt de Fontainebleau. De la forêt de Fontainebleau, je ne verrais cependant qu'une sorte d'exclave, située à seulement quelques kilomètres de chez moi, et que mes cousins appelaient les petits rochers, nom assez génial en réalité, mais qui devait dans un premier temps déclencher chez moi une déception colossalement proustienne. J'avais attendu quelque chose d'énorme et d'abyssal. Il ne s'agissait que d'un chaos rocheux constitué de milliers de blocs de grès. Le rocher attendu, baroque et vertigineux, je ne le découvrirai que quelques étés plus tard, dans une forêt de Dordogne. Il y avait là, aussi incongru qu'une météorite, un énorme rocher qui faisait exactement la hauteur des arbres, un rocher percé de toutes sortes de trous qui permettait de grimper jusqu'à sa plateforme sommitale, d'où notre guide, un enfant du coin, nous avait montré la profonde crevasse où s'était récemment tué un touriste maladroit. Les rochers de mon Fontainebleau miniature étaient en comparaison incontestablement déceptifs, mais plus sécurisés aussi. Il y en avait à travers lesquels on pouvait passer le bras, comme dans des boîtes à gants de laboratoire, d'autres qui formaient des grottes où les animaux fantastiques d'un paradis de la paréidolie, la tortue, l'éléphant, le lion, avec tout au bout, au sommet, une seule image réelle, la tour Eiffel, au loin, qui venait in extremis rattacher mon enfance francilienne au grand mystère urbain. On trouvait aussi, sur certains rochers plus difficiles que d'autres, des sortes de triangles dessinés au vernis à ongles qui signalaient l'existence d'une piste d'escalade, un peu décevante par rapport aux falaises que je m'étais primitivement imaginée, mais d'une difficulté néanmoins insoluble. Heureusement, le sable en dessous d'elle était presque aussi doux, aussi blanc que de la crème fouettée. Et c'est bien cela qui rend encore aujourd'hui pour moi la forêt de Fontainebleau unique parmi toutes les forêts du monde. C'est une forêt lumineuse, accueillante, enfantine, à la place de l'humus nocturne habituel. Le sol agit comme un grand déflecteur, les rochers partout écartent les arbres, comme on se recoiffe avec les doigts pour mieux voir, et les seules ombres sont celles des rochers qui passent comme des nuages devant le soleil. La surprise enfin est permanente, au lieu de traquer de pénibles bêtes sauvages, c'est ici directement la géologie qu'on vient chasser et qui joue avec nous sans fin, qui se faufile partout entre nos jambes. On croit se perdre le long d'un sentier escarpé et on se retrouve sur le sol craquelé d'une comète, sur la platière d'Apremont, l'original en pierre de ce radeau amazonien des ciments nylon qui me faisait rêver enfant. Ou bien on fait quelques centaines de mètres après un petit parking et on tombe en plein Sahara, en plein hogar tourmenté et génial. Génial, c'est le mot, cette forêt est géniale. Son habileté à nous surprendre, son originalité absolue, ses prodigieux tons formels. On n'est pas ici dans l'imbécile nature ni dans l'épuisant monde humain. On est entre les deux ailleurs, dans un rêve de la nature, dans le paysage procédural d'un jeu vidéo. La pensive oblique de ces grands rochers, là-bas, je l'avais déjà vue dans la célèbre photographie romantique à la tête penchée de Berlioz, et ces amateurs d'escalade qui se promenaient partout en ce jour inaugural du printemps, avec leurs gigantesques tapis de sol carrés qui leur faisaient des carrures colossales, de quel monde de fantaisie sortaient-ils? J'ai mis un certain temps à trouver. Ils venaient de cette merveille de clip qui rassemble Kanye West, Lil Pump et Adele Givens pour illustrer cette chanson dont je suis gêné un peu à peine que mes enfants en connaissent aussi bien les paroles. You're such a fucking oh, I love it, I love it. Mais le clip, avec ces deux rappeurs qui dansent dans des costumes aux épaulettes si inimaginablement carrées qu'elles feraient passer les personnages de Minecraft pour d'opulents Rubens, est artistiquement un chef-d'œuvre qui justifie tout, un chef-d'œuvre équivalent à la forêt de Fontainebleau, autre triomphe de l'arbitraire, du caprice et de la fantaisie. Such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe.